Bonjour à tous nos auditeurs de Radio Aligre, c'est Nathalie Perrin et Isabelle Raviolo qui est à côté de moi. Nous poursuivons nos émissions Carte Blanche, nous sommes donc dans l'émission Philosophie au présent, voix du Collège International de Philosophie. Alors aujourd'hui, cette Carte Blanche proposée par Isabelle va concerner deux auteurs et deux ouvrages qui ont touché Isabelle et je me suis mis à les lire aussi, et vraiment ça a été une petite révélation. Nancy Houston, l'espèce fabulatrice, qui est parue en 2008 chez Actes Sud. Et puis nous évoquerons ensuite en deuxième partie d'émission, Isabelle évoquera le livre de François Julien, De l'écart à l'inouï, qui est paru le 16 janvier 2019 à Lerne. Alors pour présenter un petit peu Nancy Houston, qui est née en 1953 à Calgary en Alberta au Canada, c'est donc une femme de lettres et qui est d'expression française et anglaise. Elle vit à Paris depuis 1970. Sa mère était féministe, raconte-t-elle, elle a quitté son père, son frère, sa sœur et elle-même à l'âge de 6 ans. Et elle raconte dans son récit autobiographique, Nancy Houston, qui s'appelle Nord perdu, qui est paru en 1999 chez Actes Sud, que cette mère, elle l'a très peu vue et que du coup, elle en a toujours gardé une espèce de fêlure. Elle raconte « J'ai vécu une adolescence assez sombre et mes débuts dans l'âge adulte ont été compliqués. J'étais anorexique, suicidaire. Je pense que le fait de m'installer à l'étranger a reflété un instinct de survie. » Donc ça, c'est dans une interview de 2012. Effectivement, son père va se remarier, elle va avoir une belle-mère qui visiblement va lui montrer un petit peu ce qu'est l'Europe, d'où son envie, et notamment l'Allemagne, d'où son envie à l'âge de 20 ans de venir à Paris faire ses études. Et puis ça a visiblement été un coup de foudre au Paris puisqu'elle décide de s'y installer. Elle fait des études à l'EHESS sous la direction de Roland Barthes où elle fait un mémoire sur les jurons qui s'appelle « Dire et interdire » et qui est paru en 1980 chez Payot. Et en même temps, voilà, ça c'est aussi une dimension de Nancy Houston très très intéressante. Elle participe au mouvement des femmes et publie dans des revues comme Sorcières, bon, très très célèbre à l'époque, notamment parce que des femmes comme Marguerite Duras, Hélène Cixous, Chantal Chaouaf et Françoise Dolto ont écrit. D'autres revues aussi très féministes comme Histoire d'elle, une revue qui a paru de 77 à 80, ou Les Cahiers du Griffe qui a paru de 73 à 97. Et elle le dit, elle est toujours restée une militante du droit des femmes. Pour elle, écriture, et elle dit magie de l'écriture, et féminisme ont été toujours très liés. En 80, elle publie Les Variations Goldberg. Elle écrit directement en français, mais c'est là qu'elle met en place cette double écriture. Peut-être Isabelle en parlera succinctement, mais que je trouvais très intéressant. Une double écriture pour tous ses romans. C'est-à-dire, elle écrit en anglais et elle traduit en français parce qu'elle trouve que le changement apporte quelque chose à l'écriture. Et elle garde le français uniquement pour ses essais, ses articles. C'est aussi une musicienne. C'est intéressant avec ce titre des Variations Goldberg. Elle joue du piano, de la flûte, du clavecin. Et la musique est restée toujours pour elle une source d'inspiration. Voilà un petit peu pour sa biographie. Et Isabelle, pour lancer le moment où Isabelle va revenir sur cet ouvrage, va travailler les questions de l'importance de la quête de sens chez l'homme. Cet ouvrage parle de ça essentiellement. Et qui pourrait être une question classique, nous dit Isabelle, est traitée par Nancy Houston par le prisme des rapports entre l'homme et le roman. Voilà, c'est cette grande idée que porte ce livre de l'espèce fabulatrice, c'est-à-dire de la capacité de narration, d'inventer des histoires qui est propre à l'homme. Je passe tout de suite la parole à Isabelle.
Merci beaucoup Nathalie pour cette introduction très complète, précise et qui nous permet d'entrer en matière dans le monde de l'écriture de Nancy Houston, qui, comme tu le rappelais, est une écriture à double entrée, on peut dire, par la langue anglaise, la langue française, un travail sur le langage, un travail réel d'écrivain, et dans l'espèce fabulatrice, un livre dédié à son père, Nancy Houston choisit justement de citer en exergue Romain Gary. « Rien n'est humain qui n'aspire à l'imaginaire. Cette citation de Romain Gary n'est pas sans faire écho à la dimension majeure qu'occupe l'imaginaire dans l'écriture. En effet, qu'est-ce que nous montre au fond ce livre de Nancy Houston? Que notre imagination supplée à notre fragilité et que sans elle, nous aurions déjà disparu. Comme ont disparu les dinosaures, au fond, dit-elle au début de son livre. Alors, pour Nancy Houston, on le comprend, ce qui nous caractérise en propre, ce n'est pas tant le rire ou la raison que la fable, c'est-à-dire l'histoire. Le propre de notre espèce, c'est bien dans l'histoire, dans la capacité de se raconter des histoires, de raconter des histoires aux autres, de mettre le réel en récit, en fable, qui nous est intrinsèque. En effet, on aime raconter des histoires, en raconter aux autres, pour donner du sens. Et Nathalie le rappelait, ce livre parle du sens, il a un enjeu anthropologique mais aussi éthique, sens que l'on donne au monde, pour se rapporter à lui, pour apporter ce contenu que d'emblée il n'a pas. Cette pauvreté du réel est finalement remplie par le langage. Et le récit, dit Nancy Houston à la page 15 de ce livre, confère à notre vie une dimension de sens qu'ignore d'autres animaux. Le sens humain, au fond, se distingue du sens animal en ceci qu'il se construit, dit-elle, à partir de récits, de fictions. Et justement, quand elle explique un peu plus loin, le réel réel n'existe pas pour les humains, mais seul existe le réel fiction, toujours dès lors que nous vivons dans le temps. L'existence de l'homme, l'existence temporelle au fond, qu'est-ce pour Nancy Houston, sinon le fait même de raconter? Et qu'est-ce que le récit, sinon tisser des liens entre passé et présent, entre présent et avenir? Autrement dit, faire exister le passé et l'avenir dans le présent. On comprend donc toute l'importance de la narrativité, qui pour elle est une véritable technique de survie, et qui comprend l'intérêt vital qu'il y a pour l'Homo sapiens de doter le réel de sens par ses fabulations. Alors parler, finalement, on le comprend pour Nancy Houston, ce n'est pas seulement nommer, rendre compte du réel, c'est aussi au fond l'interpréter, l'inventer, le façonner. Donc le réel est sans nom de prime abord, et le nom d'un objet n'existe pas, intrinsèquement à l'objet, relativement à lui. Mais on comprend que pour Nancy Houston, le langage fait exister. En nommant, je donne existence aux choses du monde réel. Et aussi loin que l'on remonte dans les étymologies, de mot en mot, on ne trouve finalement que d'autres mots, c'est-à-dire d'autres signes arbitraires, découpant le monde, construisant leurs objets, au lieu de les trouver. Alors c'est vrai qu'on retrouve en filigrane toute la problématique du cratyle hein, de Platon, cette thèse de cratyle qui se confronte à celle d'Hermogène et qui ensuite est débattue par Socrate qui s'intéresse à la question du langage, à la question de l'écriture, mais d'abord du langage oral chez Platon bien sûr. Ce langage est-il propre aux choses ou au contraire un signe seulement arbitraire? Or Nancy Houston nous fait remarquer que c'est nous seuls qui avons engendré les noms. Ils sont réels puisqu'ils font partie de notre réalité, mais ils ne sont pas vrais au fond. Donc sans homme, il n'y a pas de nom. Sans homme, le réel est là, sans nous, mais existe-t-il réellement? Et à la page 19, quand elle parle de Dieu, c'est très intéressant, puisque Dieu n'existerait pas sans les hommes, dit-elle. Dieu, c'est une fiction pour Nancy Houston. Nous ne sommes pas sa création, il est la nôtre. Donc toute nomination est finalement pour elle, écrivain, un acte magique. Mais Nathalie vous l'a rappelé, ces êtres humains, pour Nancy Houston, sont de véritables prestidigitateurs, des magiciens qui s'ignorent. Alors pourquoi dit-elle cela? Eh bien pour elle, le réel est tissé de fiction. Tout tient, pour reprendre Pascal, par des cordes d'imagination. L'argent, l'or, la bourse sont des fictions. Les êtres humains sont de véritables alchimistes qui s'ignorent. Et par leur fabulation, ils vont justement transformer le plomb en or. Donc, tout ce qu'ils vont toucher deviendra de l'or. On pense à Midas, mais au-delà même de cette mythologie, Nancy Houston en déduit un concept, et le concept d'imagination est chez elle intrinsèquement relié au concept de sens. Le sens, dit-elle, plus loin à la page 20, et notre drogue dure, sous forme d'idéal politique, d'idéal religieux. Finalement, cette drogue est non seulement dure, mais elle est pure. Pour s'en procurer, certains iront même jusqu'à tuer père et mère, dit Nancy Houston, voire à sacrifier leur propre vie. Or, c'est très intéressant, puisque on comprend dans ce qu'elle dit que ce qui est spécifiquement humain, ce n'est pas tant d'être gentil ou méchant, cruel, compatissant, mais c'est de se dire que on l'est pour quelque chose, en vue de quelque chose, et que cette finalité, au fond, c'est une finalité essentiellement langagière. Alors, on ne peut que penser à Proust, auquel Nancy Houston fait souvent référence dans son œuvre, en filigrane ou de manière explicite, Proust qui, dans « À la recherche du temps perdu », dans « Le temps retrouvé », vous connaissez, chers auditeurs, cette citation, explique que la vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la vie seule, par conséquent, réellement vécue, c'est bien la littérature. Cette vie qui, en un sens, habite à chaque instant chez tous les hommes, aussi bien que chez l'artiste, dit Marcel Proust. Alors, précisément, Nancy Houston dit que ce sont les fictions mêmes qui constituent notre espèce, élaborée au long des siècles. Elles sont, elles deviennent, par la foi que nous mettons en elles, notre réalité la plus précieuse et la plus irrécusable. Donc bien que tissées d'imaginaire, finalement, elles engendrent, on le comprend, un deuxième niveau de réalité, cette réalité humaine, universelle, sous ces avatars dissemblables, certes, mais qui constituent la trame même du réel, de notre réel, de l'espace-temps, hantée sur ces fictions, constituées par elles, la conscience de l'homme est donc une machine fabuleuse, une machine fabulatrice, intrinsèquement imaginative, créatrice, hein, à travers des images, des mots, nous sommes bien l'espèce fabulatrice. Alors, on fait toujours beaucoup de bruit pour rien, dit Nancy Houston, à la page 45, pour le meilleur et pour le pire. Eh bien, le propre de notre espèce, c'est bien de faire de tout, dit-elle, un tintouin. Beaucoup de bruit pour rien, Shakespeare en avait fait le titre de sa pièce, faire de tout, tout un tintouin, puisque chez l'homme, la quête de sens est déterminative. Elle constitue une origine, une finalité, elle le constitue lui-même, et le propre de l'homme, s'il est un animal politique, pour reprendre Aristote dans les politiques, c'est bien qu'il est un animal parlant. Et cet animal parlant, c'est celui qui imagine le réel, qui le configure selon son imagination, à travers la culture, religion, art, mais aussi toutes nos sociétés. Alors, qu'en est-il du passage de la mythologie à la philosophie, en passant par la sociologie, les sciences religieuses, les sciences humaines, ou encore l'histoire? Cet être fabulateur qu'est l'homme n'a eu de cesse de s'attacher à mettre le monde en récit. Et voilà ce que rappelle Nancy Houston de manière essentielle dans ce livre, qui produit un travail bien articulé, limpide. L'écriture de Nancy Houston est passionnante, car elle montre sa grande culture historique, philosophique, mais aussi sa sensibilité profonde au sens même de l'homme. Eh bien, finalement, à l'image des mythes, le lecteur va découvrir que la question du vrai ou du faux n'est pas vraiment pertinente dans la conception de Nancy Houston. Pourquoi ? Parce que ce sont les fictions que l'homme crée qui, elles-mêmes, pour et par leur simple existence, comptent et constituent pour l'homme des véritables créations vitales, des créations organiques, pourrait-on dire, comme le sont, par exemple, ce rapport que nous pouvons avoir à l'argent, ce rapport que nous pouvons avoir à la nourriture même. Où est alors l'espèce humaine ? Eh bien, dans les fictions. Dans les fictions qu'il élabore, dans les fictions qui constituent, en quelque sorte, sa lignée d'homme et son soutien dans le monde. Eh bien, on peut dire que dans la veine des conclusions de Claude Lévi-Strauss et des anthropologues et ethnologues, on pense par exemple à Philippe Descola, qui tient la chaire d'ethnologie au Collège de France, et je pense notamment à la fin de son très beau livre « Par-delà nature et culture », Nancy Houston soutient bien dans cette lignée des anthropologues, en dernière analyse, que les humains sont eux-mêmes des fictions. C'est-à-dire que chacun renferme en lui des récits qui le définissent et qui donnent du sens aux yeux des autres. C'est très intéressant parce que d'emblée on peut penser par exemple au témoignage lors d'une célébration funéraire. Quand quelqu'un meurt, les proches, les amis, les connaissances se réunissent autour du cercueil et parlent, témoignent de la vie du disparu. Et cette vie rassemble un récit, une fiction, mais une fiction qui est rapportée par l'interprétation aussi de tous ceux qui ont entouré le défunt et qui établit finalement toute une trame, toute une grille dans laquelle la fiction prend le relais d'un réel peut-être qui n'existe pas sans elle, et sûrement qui n'existe pas sans elle. Au fond, à la fin de ce livre, justement, au chapitre que Nancy Houston consacre à l'archétexte, ou l'archétexte, chapitre 5 de son livre, avant d'évoquer justement les fables guerrières, les fables intimes, la question du personnage et de la personne, elle isole ce qu'elle nomme les archétextes, récits qui fondent et qui soutiennent les humains, comme finalement le socle d'une communauté. On pense aux textes fondateurs, on pense à Gilgamesh, on pense aussi à l'Iliade et l'Odyssée, qui ont constitué le sol de notre culture. Et selon Houston, justement, les histoires que l'on raconte à l'enfant à travers des contes, aussi dans des cercles comme le cercle du village, de la famille, de l'église même, du pays, eh bien, le font appartenir cet homme à un groupe. Et le constitue aussi en tant que membre du groupe, en tant que membre du corps social, de la communauté, mais aussi le place en concurrence avec les autres. Et ça, c'est très intéressant ce qu'elle nous dit, parce que, au fond, ces histoires se confondent, au fond, avec les archétextes auxquels elle attribue toutes les déviances et les hostilités, les guerres, les conflits, les pulsions de pouvoir, de domination, ces désirs triangulaires qu'avait si bien relevé dans le bouc émissaire René Girard. Au fond, ce sont justement la circulation et ce sont les échanges qu'établissent les humains entre les fictions qui vont le déterminer et lui permettre de s'élever au-dessus des préoccupations du quotidien et de sa condition matérielle en lui offrant par l'imaginaire, par l'imagination, cette fabrique d'images, de transcender la précarité du réel, au fond, la pauvreté de ce qui n'est rien, mais qu'il imagine comme étant riche, complexe. Le tout des interprétations, et c'est très Nietzschéen, on doit repenser au paragraphe 54 du Quai Savoir. Nietzsche dit « Tout est danse des elfes, tout est feu follet, tout n'est qu'interprétation. Le tissage du réel n'existe pas en tant que tel. Il est lui-même un flot, un flux héraclitéen d'interprétation issue de l'imaginaire humain. » Alors, c'est vrai que pour elle, et elle le dit à la page 191 de son livre, « Seul de tous les arts, la littérature nous permet d'explorer. Quoi donc ? Eh bien, l'intériorité. » Très intéressant, on retrouvera ce concept de l'intériorité un peu plus loin, puisque c'est là, finalement, qu'elle érige l'apanage souverain, sa valeur inestimable, irremplaçable, cette écriture qui est littérature et qui, pour Nancy Houston, est l'art par excellence, le maître art qui permet aux hommes de connaître qui ils sont, ce qu'ils sont, pas seulement dans des apparences sociales, mais aussi de percer, de forer dans ce fort intérieur, dans ce noyau, au-delà de la coque, qui permet à l'homme de trouver du sens, de donner du sens et, au fond, d'assurer, au-delà de ses qualités passagères, sa spécificité d'homme qui le rend si différent des autres espèces. Au fond, on comprend que Nancy Houston explique que le besoin de dire, le besoin d'écrire, de lire, n'est rien d'autre qu'une volonté de savoir, une volonté de savoir qui nous sommes au fond, par effet miroir qui fait que chacun de nous puisse se connaître en se reconnaissant dans autrui. Alors on ne peut que penser à Ulysse, qui quand il revient à Ithaque, après 10 ans d'errance, demande une reconnaissance pour déterminer son existence et recouvrer son statut social à Ithaque. Reconnaissance qui lui vient d'abord de son chien, puis de sa nourrice, de sa femme, de son fils Télémaque. Donc finalement, à travers cette histoire d'Ulysse, de ce retour d'Ulysse chez lui,
dans son fort intérieur avant d'être un lieu géographique. Eh bien, c'est ce que Nancy Houston nous rappelle par ce besoin impérieux de sens, de donner sens, besoin impérieux de fiction qui sont à même de décrire et de représenter le monde. Or, finalement, selon elle, il n'y a rien de tel que les romans et les livres en général pour satisfaire ce besoin.
Merci beaucoup Isabelle. Moi, tu m'as fait découvrir une romancière et une femme à l'écriture. Tu l'as rappelé très très clair. Si je puis me permettre de prendre la parole après toi, j'étais vraiment surprise et très étonnée de la manière dont commence cet ouvrage, l'espèce fabulatrice, qui commence finalement par une question d'une prisonnière de Fleury-Mérogis et qui est la question finalement, à quoi sert d'inventer des histoires alors que la réalité est déjà tellement incroyable ? Parce que ce livre finalement part d'une question, d'une prisonnière, hein, de femme que Nancy Houston est allée voir. Visiblement, elle a fait des choses avec elle. Elle a eu des discussions. Elles ont eu des discussions ensemble sur l'écriture. Et finalement, cette espèce fabulatrice commence par une question toute simple, issue de gens qui ne sont pas du monde de la création et de l'art, finalement, à quoi sert le roman et à quoi sert l'écriture. Et pour répondre à cette question, il y a effectivement ce que tu disais, toute cette quête du sens qui finit par poser la littérature comme une possibilité pour nous de quitter l'archétexte, c'est-à-dire tous les discours de pouvoir. En fait, la littérature vient défaire, contrebalancer tous les discours de l'archet, hein, c'est-à-dire des discours de gouvernance de nous-mêmes par le pouvoir, hein, qu'il soit d'État ou institué ou autre. Et j'avais été très frappée finalement que la fin de l'espèce fabulatrice se termine par cette réponse aux prisonnières, hein, qui en fait sont en prison parce qu'elles sont elles-mêmes victimes de fables, hein, ce que Nancy Houston appelle les mauvaises fictions. Alors c'est quoi ces mauvaises fictions dont sont victimes ces femmes qui sont emprisonnées à Fleury-Mérogis ? Eh ben les fictions d'amour, hein, les jalousies, les violences conjugales. Les visions, dit-elle, page 186, de la perfection maternelle, hein, qui peut conduire à l'infanticide. Les mauvaises fictions que sont les politiques ou les fictions religieuses, hein, qui poussent à poser des bombes et qui font qu'elles peuvent être les unes ou les autres enfermées à cause de ça. Ou les mauvaises fictions sur le bonheur, qui fait croire que l'argent et la drogue sont fondamentales. Et ben voilà, l'espèce fabulatrice, c'est arriver à poser à travers cette question simple d'une prisonnière ce qu'est la fiction littéraire, son éthique, qui est, dit Nancy Houston, de montrer la vérité des humains.
Oui,
voilà, et
oui.
De se dégager des mauvaises fictions.
C'est très intéressant ce que tu rappelles, Nathalie. Tu mets vraiment l'accent sur un élément essentiel du livre. Et à la page 85 d'ailleurs, hein, pour corroborer ce que tu viens très justement de dire, Nancy Houston s'interroge. Elle se demande comment on fait survivre. En se liant, dit-elle, en se liguant, la fonction primordiale des histoires humaines, c'est, dit-elle, l'inclusion et l'exclusion.
Oui,
voilà. Et
absolument.
Le « et » n'est pas disjonctif, c'est comme une dialectique au fond. Car le « nous » s'instaure et se renforce par le récit bricolé du passé collectif aussi. Et de toutes ces fictions sur l'amour maternel, sur l'amour parental. Au fond, elle le dit, l'amour parental, c'est une fiction d'une importance primordiale pour la survie de l'espèce humaine, hein, pour une raison encore peu citée. Je la cite elle-même à la page 145. « Seul de tous les primates supérieurs, l'être humain naît prématurément plusieurs mois avant terme. » Parce que s'il naissait à terme, vu le gigantisme de son crâne, dit-elle, et la minceur du bassin de sa mère, eh bien, tous les accouchements seraient fatals. Autrement dit, on voit que ce qu'elle explique ici, en posant ces fictions de l'amour parental, de la paternité, c'est que ce rapport que nous avons entre nous est tissé de langage, et que ces échanges qui sont très longs entre la mère et l'enfant sont des échanges constitutifs. Ils font naître le langage humain. Nancy Huston est très claire, pour elle, c'est parti de là, le langage humain, du rapport mère-enfant. Mmh. Et peut-être aussi la misogynie, dit-elle à la page 146. Et au fond, cette misogynie est aussi une construction de fiction avec tous les tabous qui vont avec. Et tous les tabous qui aussi se greffent sur une imagination qui entame la notion même de ce qu'on pourrait appeler maternité, paternité, qu'est-ce que ça veut dire. Concernant la paternité, elle l'explique un peu plus loin, elle dit que la nécessité d'affirmer haut et fort la paternité, c'est peut-être, dit-elle, une manière de contrôler l'autre, l'autre, le féminin, par le tabou de la virginité, la punition des épouses infidèles, la transmission du patronyme, ainsi de suite. D'où aussi, finalement, la fiction la plus répandue en matière de rapport entre les sexes, hein, que l'homme possède la femme. Et elle insiste bien sur ce terme. Et sur ce terme, elle va essayer de comprendre ce qu'est l'institution du mariage, qui est une réalité humaine, au fond pour elle une fiction, et à laquelle notre espèce a décidé d'adhérer. Tout est tenu par cette fiction, donc par la foi qu'on lui accorde, au fond. Et cela tient par des cordes de foi, tout ça. C'est-à-dire, au fond, par ce qu'on charge de contenu, ces mots, hein, du contenu que l'on donne à ces mots, de la charge émotionnelle, rationnelle, mais symbolico-charnelle, pour reprendre ce que disait Jean Toussaint de Santi, c'est-à-dire une force, hein, de la croyance, un besoin de croire, qui fait le langage et qui, finalement, donne à certains un caractère, normé, et à d'autres, au contraire, hors norme. Mais par rapport à quoi ? Pas par rapport à une essentialité, puisqu'elle désontologise, elle décloisonne ces mots dans leur sens qui serait un sens qu'ils auraient en eux-mêmes. Mais par le fait qu'on y croit. Par le fait qu'on y croit et qu'on donne à la sémantique un contenu, un signifié qui va tout de suite prendre une ampleur incroyable. Et elle le dit quand elle parle de la mère et de la prostituée. Elle le dit, on ne peut que penser à Jean Eustache, la maman et la putain. À la page 152 de l'Espèce fabulatrice, elle dit que ce sont des rôles. Que tout est théâtre, que tout est fiction, et que nous sommes les acteurs sur une scène. Ces acteurs avec un texte auquel nous choisissons d'adhérer, auquel nous croyons pour porter pleinement notre rôle. Et elle le dit elle-même, hein, dans cette veine désontologisante dont je parlais. Personne ne peut être pute. On ne peut que jouer la pute. Page 152 de son livre. Et elle l'explique un peu plus loin, en s'en désolant, eh bien tous les jours meurent des femmes pour la simple raison qu'elles ont endossé le rôle de pute, qu'elles y ont cru dans le grand théâtre humain.
Oui, voilà. Bon, malheureusement, il faut qu'on en termine pour te laisser la parole sur François Julien, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de troublant. Je voudrais revenir sur l'écriture de Nancy Huston, parce que tu parlais de sa clarté. Moi, je suis comme toi. On a dans cette écriture un mélange d'abstraction, parce que c'est une femme de lettres, c'est une femme qui pense, c'est une femme qui a une véritable culture philosophique et autre, une grande culture large. Mais en même temps, cette espèce fabulatrice, part d'une question pragmatique, d'une question de quelqu'un qui n'est pas dans le monde de la création. Et du coup, toute la réponse et toute l'écriture de Nancy Huston va découler de cette question posée par une personne, non pas lambda, parce que justement, sa vie est d'être prisonnière à Fleury-Mérogis, mais une personne du commun. Voilà. Et c'est ce commun qui vient interroger la littérature, qui vient interroger son essence, qui vient interroger son travail et qui fait la force de ce livre. Donc que les auditeurs aillent lire cet ouvrage qui se lit en plus de manière très rapide, dans une espèce d'éclair comme ça, avec des phrases très courtes qu'on peut prendre en soi, avec lesquelles on peut cheminer. Hein, voilà, c'est vraiment très très belle découverte. Ben, pour en terminer, nous proposons donc là de faire un petit clin d'œil à Nancy Houston et à son amour de la musique, et un double clin d'œil à son premier ouvrage qui s'appelait Les Variations Goldberg, qui a paru en 1981, et nous proposons aux auditeurs d'écouter la version de Glenn Gould, la très grande version, l'ultime version de Glenn Gould, des Variations Goldberg de 1981, pur chef-d'œuvre. Oui, nous sommes de retour après l'écoute des variations Goldberg version 1981 pour un petit hommage à la femme écrivain Nancy Houston et à la musicienne qu'elle est aussi, et au titre de son ouvrage paru en 1981, Variations Goldberg, et qui, voilà, petit clin d'œil aussi à Glenn Gould qui a fait paraître sa dernière version, combien célèbre, des variations Goldberg. Nous allons maintenant, pour poursuivre cette carte blanche, parler de François Julien et d'un livre qu'a choisi Isabelle qui s'appelle De l'écart à l'inouï, paru, donc je vous le disais tout à l'heure, le 16 janvier 2019. Pour parler un petit peu de François Julien, si vous ne le connaissez pas, il est donc né en 1951 dans les Hautes-Alpes, à Embrun. C'est un philosophe français, helléniste et sinologue, agrégé de la rue d'Ulm, comme on dit, en philosophie. Il étudie la langue et la pensée chinoise à Pékin et Shanghai, de 75 à 77. Il est responsable de l'antenne française de sinologie à Hong Kong de 78 à 81, pensionnaire de la maison franco-japonaise à Tokyo de 85 à 87. Et son doctorat d'état qu'il soutient en 1983 va lui donner une très très grande renommée. Et puis il a été président du Collège international de philosophie, institution dont est issue cette émission que nous proposons, Philosophie au présent. Alors pour résumer sa pensée également, mais Isabelle en parlera mieux que moi, c'est une pensée qui dérange, hein, qui dérange et l'orientalisme et la philosophie. Bon, et ça c'est très intéressant pour nous, parce que c'est une pensée qui cherche à travailler des écarts. Et que veut dire travailler des écarts? C'est ouvrir une distance pour faire apparaître de l'antre. Hein. C'est donc ce que produit François Julien, une mise en tension de la pensée. Mais cette mise en tension de la pensée, cet écart entre deux mondes et deux mondes culturels, c'est-à-dire deux manières de penser l'être et l'existence, cette mise en tension, c'est aussi pour produire du commun. Bon. Donc c'est moins finalement une pensée de l'être, hein, qui serait issue de la pensée grecque, qu'une pensée du vivre, c'est-à-dire une philosophie de l'existence. Je laisse la parole à Isabelle.
Merci beaucoup, Nathalie. Oui, comme tu le disais très justement, François Julien est un philosophe qui sort des rangements matriciels et qui ose la dissidence, la décoïncidence, pour reprendre son terme. Et au fond, c'est une philosophie de l'écart. Et donc un philosophe qui se risque loin des habitudes de pensée, jusque dans l'impensé des origines de ce qui a nourri notre tradition. Au fond, ce philosophe, on peut dire qu'il est original, singulier, parce qu'il sonde cet inconnu, ce bien connu devenu familier, et au fond, comme Descartes en son siècle, interroge la vetus opinio, la vieille opinion, la familière opinion, en risquant le doute, c'est-à-dire l'aventure philosophique, loin de la fatigue ronflante de ce langage rassis des assis, pour reprendre un terme rimbaldien, Rimbaud qui revient souvent d'ailleurs dans l'œuvre de François Julien, puisqu'il s'agit, hein, comme il le dit dans ce livre, de quitter l'Europe aux anciens parapets, pour reprendre un des vers d'Arthur Rimbaud dans Le bateau ivre. Alors ici, effectivement, François Julien va nous proposer un chemin qui éveille, un chemin qui réveille, parce que ce livre est vraiment décapant. Ce livre est décapant au point qu'on pourrait dire avec Pascal que le sol craque et que la terre s'ouvre jusqu'aux abîmes pour le lecteur. Et que François Julien nous invite à décoder les normes de l'Europe, cette Europe aux anciens parapets, c'est-à-dire ses habitudes de pensée, ses codes, ses chemins convenus, en nous écartant d'elle, en faisant un détour jusqu'en Chine. Une civilisation très loin de la nôtre. Alors il dit bien, pas la Grèce, pas l'Inde, mais la Chine, c'est très loin de nous. Donc ça nous oblige à l'écart, à la dissidence et à la décoïncidence, c'est-à-dire au fond à la philosophie de l'antre. Hein. Et la Chine va lui servir de levier ou de point d'appui pour dresser un dehors et relancer la pensée, c'est-à-dire penser l'impensé. Alors il s'explique, hein, pourquoi la Chine? Parce qu'elle est étrange, étrangère pour nous, Européens, et que François Julien, par là, espère aussi sortir de l'ornière de nos questionnements. Et c'est pour ça que son livre s'appelle « De l'écart à l'inouï ». sous-titre « Un chemin de pensée ». L'écart pose la dissemblance, hein, et l'inouï, il s'en explique l'impensé, ce qu'on n'a jamais écouté, parce qu'on n'y a jamais prêté attention au fond, parce qu'on dormait sur ses habitudes ou qu'on s'était enlisé dans ses coutumes. Donc, cette ligne de conduite, qui est celle de François Julien dans cet ouvrage, est une ligne éthique, une posture philosophique qui dresse une attitude face au réel. Et cette attitude, il s'en explique dès le début, pose un dénuement. Alors, comment chercher le dénuement de la pensée? Et qu'est-ce que cela veut dire pour François Julien? Eh bien, tout simplement, en reprenant le sens même du terme, c'est rendre nu, rendre une virginité à notre pensée, lui refaire sa virginité. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire quitter ces grands philosophèmes de la Grèce antique, être, Dieu, vérité, liberté, ce que François Julien appelle finalement le grand carré théorique. Pourquoi, papa? Pour se retourner contre son atavisme, et non pour se déraciner, hein, on l'a compris, mais pour se désenliser. J'aime beaucoup, moi, le verbe, hein, se désenliser du marais bourbeux du grand carré théorique. Ça voudrait dire que pour François Julien, et il le dit à la page 10, il ne s'agit pas de critiquer une philosophie précédente, hein, il n'est pas là pour ça, lui, mais d'ébranler son propre soubassement, dit-il. C'est intéressant, son propre soubassement, c'est quoi? Son fondement. Hein, c'est pour ça que je citais Pascal, le sol craque et la terre s'ouvre jusqu'aux abîmes. Ou encore Descartes avec son doute, qui renverse les fondements reçus, ce qu'il reçoit en sa créance par le doute hyperbolique. Donc sortir de l'héritage grec et l'interroger du dehors depuis la Chine, bah, c'est finalement une autre voie d'entrée dans la philosophie. Nos auditeurs l'auront compris, par le dehors chinois, justement. Et ce dehors chinois, comment François Julien va-t-il s'en servir, justement? Eh bien, pour lui, il va devenir un véritable opérateur théorique. Et il va organiser tout un vis-à-vis entre les pensées chinoises et européennes. D'où il les conduit à se réfléchir l'une dans l'autre et aussi l'une par l'autre. Donc finalement, François Julien sonde l'une dans l'autre ses propres partis pris théoriques. Et ça, ça va devenir super intéressant pour le lecteur. C'est très jouissif de lire François Julien, de l'écouter. Parce que il nous interroge, il nous défait de nos habitudes, il nous rend nus devant ce qu'on croyait savoir si bien, trop bien, que finalement on ne pensait plus. Donc, à quoi sa pensée était adossée? Eh bien, à la déconstruction de l'ontologie, mais non pas une déconstruction naïve de demi-habile, hein, mais une déconstruction qui va plonger ses racines dans l'être en créant une généalogie, justement, l'attitude, hein, du philosophe avec son marteau qui remonte à l'origine pour l'interroger et il se demande, bah, comment on fait pour penser quand on passe à côté de l'être, en fait? Eh bien, on repense l'allusif, qui répond, dit-il, à l'évasif. Alors, c'est super, parce que, si vous voulez, pour nous, c'est très intéressant. Dès lors qu'on dit, en tant que professeur, c'est allusif, c'est évasif, développez votre pensée, qu'est-ce qu'on veut dire par là à l'élève, au fond? Ben, de penser à la manière dont on pense, dont on code la pensée, dont on la norme. Mais lui nous dit non, non, allons à rebours de ces codes et de ces normes. Deux catégories, finalement, l'allusif et l'évasif, qui vont nous faire aller à rebours de l'assignation, dit-il, de l'appropriation du sens. Voilà, dominer le réel par le sens qu'on lui donne, la raisonner, l'encadrer, le catégoriser. Tout cela, François Julien le fait voler en éclats. Et on ne peut que penser au trait de pinceau des calligraphes chinois, qui nous semble si évasif et qui pourtant dresse, hein, à travers cette force du simple, tout le sens de l'évasif pour François Julien, c'est-à-dire le vent, ce que les Chinois appellent le feng. Feng, qu'est-ce que cela veut dire? Il s'en explique dans ce livre. C'est la perte du cadre fixe, au fond, ben de la norme. Donc il défait la coupure entre le sensible et le non-sensible, François Julien. Et de fait, il désadhère désenlise la réification, choisit le dénuement, c'est-à-dire qu'il choisit de laisser place, au fond, de faire place, en se rendant disponible, en gardant cette position ouverte. Et cette position ouverte, c'est tout à fait à rebours des formes arrêtées, limitées ou circonscrites. Donc, on comprend que quitter l'Europe aux anciens parapets, c'est couper avec l'ontologie qui a institué des plans d'idéalité et promu une science classique, galiléenne, décollant de l'empirique pour en rendre compte idéalement par modélisation mathématique, au fond. Donc, sur le socle de l'ontologie, qu'est-ce qu'on a construit pour François Julien ? Mais toutes nos valeurs, en fond, hein ? Le beau, la cheville ouvrière de la métaphysique. Et on a quitté le multiple du sensible pour aller toujours trouver l'unité, l'essence, la fondation, la substance. Or, il le dit, il n'y a pas de coupure ontologique en Chine. Et en établissant l'écart, on retrouve l'inouï, puisque la Chine nous invite à penser l'impensé, l'inouï, ce qu'on n'avait jamais entendu, auquel on n'avait jamais pensé. Et c'est cette ambition du peintre chinois dont je parlais, de transmettre une dimension d'esprit au travers même du sensible. Alors on ne peut que penser à l'itinéraire de Fabienne Verdier, hein, dans cet itinéraire, elle s'en explique dans Passagère du silence, il y a pour elle toute une métaphore idéale qui transmet la vie au trait, à l'unique trait de pinceau. Et finalement, elle le dit elle-même dans Passagère du silence à la page 110. Hein, je suis revenue dans la lecture de ce livre en relisant François Julien. Avant d'avoir appris à communiquer, dit-elle, une tension physique et spirituelle au trait, il ne sert à rien d'aller plus loin, ne pas forcer, ne pas dominer le réel, mais se laisser aussi parler. À travers le réel, c'est-à-dire s'oublier soi-même. Et c'est ça, au fond, le dénuement. S'oublier soi-même, ne pas chercher à donner du sens avec sa raison, mais se laisser remplir par quelque chose qui nous dépasse. Et c'est ça la maturité du sage chinois, sa maturité qui est une modestie, qui est un dénuement, qui est, au fond, la belle histoire du maître Wang Fu et de son disciple Ling, écrite par Marguerite Yourcenar dans Les Nouvelles Orientales, maître et disciple qui avaient si bien atteint l'oubli de soi-même qu'ils étaient montés ensemble dans la barque qu'ils venaient de peindre. Au fond, on comprend que François Julien passe par la pensée chinoise qui promeut une décantation du sensible, faisant accéder au spirituel, mais sans quitter le sensible, hein, comme nous le rappelle Fabienne Verdier dans son très beau livre « Passagère du silence ». Alors, un au-delà par dénuement, un au-delà par dégagement dans son aura, eh bien, ce n'est pas se séparer, ce n'est pas transposer le sensible sur un plan idéal, comme le dit le sens métaphysique, au-delà d'eux, mais c'est au contraire les faire s'entrappeler, se répondre, pourrait-on dire. Et c'est pourquoi la décision de François Julien, c'est de passer de la Grèce en Chine. Pourquoi ? Parce qu'il passe de la vue à l'ouïe, à l'inouï. Pour dire l'intelligible en Chine, on le dit en entendant, voyant. Donc, on comprend que au cœur de la fonction même du dénuement se trouve la fonction du négatif, l'écart, comme le rappelait Nathalie, hein, ou l'opération de la via negativa. Pour François Julien, elle se greffe cette négation sur le caractère finalement désontologisé qu'il s'agit pour lequel il s'agit d'opter, afin de ne plus lire le réel à travers des philosophèmes de la métaphysique, mais au contraire, d'une certaine manière, de le lire depuis le jugement de goût, depuis le laid, depuis le beau. Donc, quand il parle de cette question ou de la via negativa, il dit qu'au fond, à la question du négatif de la violence, par exemple, il faut répondre que l'on ne peut l'envisager que relativement au fait que la violence s'inscrit dans le vital pour sa vertu néganthropique. Et comment activer la violence de manière inventive ? Eh bien, il faut la réactiver en fonction de tout ce qui peut être créateur. Le beau, c'est l'art pour lui. C'est l'écriture, c'est la peinture. Réactiver cette force hein, qui devient violence quand elle n'est pas canalisée, c'est passer par l'écart, et les écarts, pourrait-on même dire, qui s'ouvrent et qui deviennent féconds tant qu'ils sont, dit François Julien, c'est intéressant, horizontaux et maintiennent en regard. Pas de hauteur, pas d'inaccessible, pas des écarts qui se figeraient, se stériliseraient dans l'idéalisation ou l'idéalité d'une verticalité hiérarchique, creusant la distance en séparation et exténuant la relation. Les écarts de richesse, les écarts de vie, de niveau de vie, peuvent s'accuser en négatif primaire et destructeur, dit-il. Et aujourd'hui, en France, on est dans ce régime de négativité faible. Mais la négativité forte, ce serait une négativité beaucoup plus audacieuse, beaucoup plus aventurière. La négativité de la décoïncidence, qui introduirait une décoïncidence d'avec l'autre en rompant l'adéquation, adaptation de l'autre avec soi, de soi avec l'autre, et qui ferait croire à la possibilité d'une relation. Revenir à la symétrie lévinassienne, c'est revenir, au final, à quelque chose qui serait proche de la pensée hébraïque qui s'est tournée vers l'autre pour éclairer l'énigme de l'existence. Hein. Rencontrer, c'est pas une modalité existentielle parmi tant d'autres pour lui, c'est capital, parce que c'est dire le seul rapport avec l'autre. Rencontrer, c'est dire l'inouï. L'intime, qui est à la fois inouï et discret pour François Julien, qui déclôture le sujet, et qui, finalement, fait passer de l'équivoque amoureuse à l'ambiguïté de l'intime, c'est-à-dire qui chasse l'équivoque et qui reconnaît, en explorant l'ambigu de l'intime, un langage loin des séparations et un langage qui redevient horizontal dans la discrétion de l'intime et qui nous fait sortir de l'opposition à être non-être, actif, passif. L'intime donc ne s'attribue plus, nous sommes intimes. L'intime est de ce qui de l'amour ne fait pas mal, dit François Julien. Ce qui de l'amour ne s'use pas. Il faut penser la vie à dessous la figure de l'intime. Finalement, dessous cette figure de l'intime, ça veut dire déployer l'ouverture des sujets. Ne projeter plus de fin sur l'autre, plus de figure, mais sortir du rapport de force pour lui, pour penser la possibilité de l'intime, pour penser ce qui de l'amour ne fait pas mal, ne s'use pas. L'intime du dedans partagé resitue donc, chers auditeurs, l'autre dans un dehors projeté, une extériorité désirable dans le jeu amoureux partagé. Donc l'intime de ce livre, c'est vraiment l'inouï pour moi, c'est-à-dire la ressource même de l'aventure philosophique de la pensée de l'homme qui ouvre l'existence à l'infini dans la présence de l'être prêt.
Merci beaucoup Isabelle, nous allons faire une toute petite pause musicale, voilà, d'un instrument de musique chinois, et puis nous revenons vers vous dans quelques instants. Oui, nous revenons vers cette carte blanche. Nous étions avec Isabelle Raviolo sur le livre de François Julien de L'écart à l'inouï. On vient de vous passer cet instrument traditionnel chinois qui s'appelle le guqin. Nous vous invitons à aller voir d'ailleurs des vidéos sur YouTube pour voir la beauté de cet instrument. Et Isabelle, en aparté, me disait que c'est l'instrument du philosophe en Chine. Alors voilà, on conclut cette carte blanche. Alors, un petit mot sur François Julien et sur ce que vient de nous dire de manière vraiment pensée, réfléchie et détaillée Isabelle. En t'écoutant Isabelle, en fait, je le disais en introduction, François Julien a été président de l'Assemblée collégiale du Collège international de philosophie et cette institution pose notamment à travers François Châtelet, qui est un de ses fondateurs, la nécessité du déplacement en philosophie. François Châtelet dit quelque part, la philosophie active, la philosophie vivante aujourd'hui, il dit ça dans les années 77-75, la philosophie vivante aujourd'hui, celle qui est active, c'est plus seulement celle qui critique au sens classique du terme, parce que la critique finalement elle est acceptée par les pouvoirs et elle fait pas grand mal. Mais c'est celle qui va, si en tout cas elle critique, s'en prend aux institutions, à l'instituer, et il me semble bien que François Julien s'en prend à l'instituer ou à l'institution de la philosophie à travers cet écart qu'il produit en allant voir ailleurs dans ce monde chinois. Mais ça me faisait donc penser à ce que tu disais, au fait que François Julien s'insère complètement dans cette idée de François Châtelet d'une philosophie vivante qui déplace et qui crée des écarts, comme on le disait au début de tes deux interventions, et ce qui fait de lui un philosophe particulièrement intéressant pour nous aujourd'hui.
Oui.
Et puis une
oui.
deuxième petite chose, et je te laisse conclure ta carte blanche, je me disais aussi en t'écoutant que bon, François Julien est quelqu'un qui critique l'archétexte philosophique, comme tu nous l'as dit, et on reprend ce terme d'archétexte de Nancy Houston. Tu nous as dit que François Julien faisait sortir de l'héritage philosophique grec, et moi j'y vois aussi par rapport à François Châtelet, mais aussi par rapport à Jacques Derrida, qui sont donc les fondateurs du Collège international de philosophie, une destitution, une mise en question pour une destitution de la raison classique. Je te laisse conclure.
Merci Nathalie, c'est très important de rappeler le lien que l'on pourrait faire entre François Julien et Nancy Houston à travers la notion de Nancy Houston d'architecte, et c'est pourquoi les concepts d'écart et d'antre propres à l'écriture de François Julien se retrouvent tout à fait pertinents, parce qu'il s'agit toujours pour lui d'ébranler le figé, d'ébranler le figé de la pensée, le figé de l'essence, de la substance et le figé de la vie, le soi où s'enlise l'existence du sujet. Et c'est bien ce que nous faisons quand, avec François Julien, nous revenons à la ressource de l'altérité. Si je est un autre, l'autre est toujours l'autre que celui que nous imaginions, sur lequel nous projetions, au fond, tous nos fantasmes. Et cette ressource, elle est la même, au fond, pour la pensée. Elle est la même pour la vie. C'est la ressource de la ressource, on pourrait dire. La ressource est ce qui l'active. Et on peut passer à côté, comme on peut l'explorer et l'exploiter à l'infini. Cette ressource, quelle est-elle pour François Julien ? Eh bien, ça peut être aussi la ressource d'un paysage, la ressource de l'intime également. La ressource, elle ne s'impose pas pour lui, elle ne domine pas, elle ne prescrit pas. Et c'est en quoi elle se sépare radicalement des commandements de la morale comme de la logique. Et c'est en quoi aussi, ne contraignant pas, elle ne prête pas à soupçon pour François Julien. Donc, sa source est bien dans l'allusif, l'évasif, le dénuement dont on parlait, autrement dit, dans la discrétion, se faufilant dans le familier, la ressource au plus loin comme au plus près, en même temps, peut tout changer, car elle transforme. C'est pas de l'exceptionnel pour lui, c'est de l'inouï. Alors l'inouï, c'est le deuxième terme de son livre, c'est quelque chose qui s'entend depuis
l'aune d'une autre dimension, pourrait-on dire. Car l'inouï surgit de l'écart de la pensée, de l'écart de la vie. Il y a de l'inouï, de ce que nous n'avions jamais même imaginé et dont la ressource est infinie. Alors c'est vrai qu'après être allé chercher le dérangement si loin en Chine, il le cherche, François Julien, au plus près, au plus près, au plus ras de la réalité, dans le reste du réel, la chose nue, la chose sans apparat, sans qualité, dans l'homme sans qualité, au ras de l'expérience. Il faut peut-être avoir voulu aller au plus loin pour s'ouvrir un chemin d'accès au plus près. Et si l'imagination qu'on croit créatrice, à la manière dont on s'imagine la créativité, n'était pas cette imagination pauvre, au fond, complètement dénuée. Et ça, c'est une idée qui l'éloigne de Nancy Houston, mais qui est tout à fait intéressante à explorer dans l'œuvre de François Julien, parce que c'est une idée qui nous conduit toujours à l'aventure philosophique, et cette aventure philosophique, c'est un déplacement, et c'est un déplacement qui nourrit l'imagination, qui en fait sa ressource. Une langue, si elle peut ne pas conjuguer comme la langue chinoise, si l'existence de Dieu peut poser un problème et si on peut penser sans verbe être, comme en langue chinoise, cela est cohérent que si l'on s'est déplacé et si l'on est allé rencontrer l'autre, l'autre dans sa différence, dans son étrangèreté, on pourrait même dire. Eh bien, c'est tout à fait cette ressource désintéressée de l'intime qui, elle, pour François Julien, ne se tarit pas et qui est pour lui, hein, cette ressource, la ressource même du réel. C'est là l'écart avec Nancy Houston, puisque si l'imagination pour François Julien s'épuise, le réel ne s'épuise absolument pas. Et l'inouï, alors, a pour lui deux sens, ce qui reste inaperçu ou inentendu, et aussi ce qui dépasse l'imagination. L'inouï est donc l'autre nom de ce réel.
Merci beaucoup Isabelle. Voilà, nous allons redonner l'antenne avec 4 minutes de retard. Voilà, vous comprenez un petit peu le sens de nos cartes blanches. Ici, il s'agit vraiment à travers l'écriture, notamment d'un écrivain, d'essayer de montrer qu'on peut penser par le sensible, pour reprendre une phrase d'Isabelle. C'est-à-dire que penser, ça serait moins penser par la vue, par l'ontologie, mais ce serait plutôt ouïr, écouter cet inouï dont tu nous as parlé. Il s'agit bien plutôt d'entendre ou de sentir le réel, le flairer, comme le dit Pascal Quignard dans Mourir de pensée, qui fera certainement l'objet d'une prochaine carte blanche. Merci à nos auditeurs et puis désolé pour ce petit retard. Merci, bonne journée à vous, à très bientôt. Merci.
Bonne journée.